l'histoire est comme un clin d'œil furtif aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107 FM. Cinquième épisode, la Cinquième République. Entendez-vous cette petite musique résonner depuis quelques années ? La musique d'une Sixième République. Oh, futur incertain. Dans ce nouveau clin d'œil à l'histoire, nous allons nous attacher à revenir sur la Constitution et la création de la Cinquième République. Qu'est-ce qui a motivé De Gaulle à la proposer ? Quelles ont été les limites de la Quatrième ? Quels sont les intérêts, les tenants et les aboutissants d'une République en France ?
Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle.
Mémoire de guerre, tome 1, publié chez Plon en 1954, signé Charles de Gaulle. Raphaël, avant de parler de 1958 et du vote de la nouvelle constitution qui donnera lieu à la 5ème République, faisons un bond dans le passé, 14 ans plus tôt, en 1944. La France, nouvellement libérée, doit se remettre des ravages de la guerre. La 4ème République est signée en 1946. Elle est proche de la 3ème finalement.
Relativement proche, oui, dans la forme, par les institutions qui la composent, mais aussi idéologiquement elles sont proches. Il faut bien comprendre que les partisans de la France libre, ceux qui ont refusé la défaite de la France, veulent poursuivre la lutte et assurer la continuité de la Troisième République, théoriquement morte lors de la signature de l'armistice de Rotonde, le 22 juin 1940. Pour cela, le général de Gaulle sollicite rapidement le soutien des colonies, qu'il obtient partiellement au mois d'août 1940, puisque les colonies de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, se rallient à la France libre. Ainsi, le gouvernement de la France libre en exil se fixe un temps à Brazzaville, puis, après la reconquête de l'Afrique du Nord par les Alliés en novembre 1942, il est en mesure, en juin 1943, de fonder à Alger le CFLN, le Comité français de libération nationale, qui prépare déjà la reconstruction de la France. Et ce CFLN est transformé ensuite en GPRF, Gouvernement provisoire de la République française, au moment de la libération en juin 1944. Donc on voit bien qu'il y a eu, pour De Gaulle et pour l'ensemble des républicains français de cette époque, une continuité républicaine entre la troisième et l'après-guerre. D'autre part, l'une des premières mesures qui a été adoptée par le gouvernement provisoire est d'annuler toutes les décisions qui avaient été prises par le régime de Vichy, comme s'il avait jamais existé. Donc ce GPRF, présidé par De Gaulle, se consacre ensuite à la restauration d'une nouvelle République. De nombreux votes et débats ont lieu, et il a fallu attendre 2 ans et demi pour que les Français s'accordent sur une nouvelle constitution. Entre-temps, le général De Gaulle, en désaccord avec les partis de gauche et du centre qui souhaitent limiter les pouvoirs de l'exécutif, démissionne en janvier 1946. C'est donc un régime parlementaire bicaméral et ressemblant fortement à la Troisième République qui est adoptée le 13 octobre 1946.
Cette République, d'ailleurs, met en place pas mal de choses, hein, notamment la sécurité sociale ou encore l'entrée dans l'OTAN. Mais qu'est-ce qui va la mettre à mal ?
Mais le plus grand problème de la 4ème République tient au mode de représentativité de la population. Les députés de l'Assemblée nationale et les conseillers de la République, c'est l'équivalent des sénateurs d'aujourd'hui, sont élus à la proportionnelle, c'est-à-dire que chaque parti présente une liste et a un nombre d'élus proportionnel au nombre de voix qu'ils obtiennent. Résultat, on a une assemblée qui est très divisée en de nombreux partis. Qui plus est, deux partis parmi les plus importants font obstacle au régime assez rapidement. Dès 1947, le Parti communiste quitte le gouvernement car il reproche à ce dernier de s'être rallié aux États-Unis alors qu'on est en pleine guerre froide. À droite, De Gaulle fonde un nouveau parti, le RPF, le Rassemblement du Peuple Français, qui s'oppose par essence à la 4ème République dont la constitution est jugée bancale. Finalement, pour gouverner, il ne reste que les socialistes et les partis centristes qui ne peuvent former un gouvernement qu'au gré des alliances qui sont très fragiles et qui sont à chaque fois remises en question dès qu'une grande décision doit être prise, comme la décolonisation ou la question de la construction européenne.
Alors De Gaulle ne participe pas ou très peu à la 4ème République alors que sa popularité est immense.
Oui, alors il n'y participe pas pour les raisons qu'on vient d'expliquer. D'ailleurs, lors de son célèbre discours de Bayeux qu'il prononce le 16 juillet 1946, et il explique clairement qu'il veut un pouvoir exécutif très fort pour éviter les luttes de pouvoir permanent au sein du Parlement qui entraînent une grande instabilité politique et une inefficacité dans la prise de décision. En gros, il veut pas que la France, qui vient tout juste de se libérer, retombe dans les errements de la fin de la Troisième République. Le parti qu'il crée en 1947 suit cette ligne politique et devient une force d'opposition majeure, d'autant plus parce que le parti obtient de bons scores lors des différentes élections, mais jamais ce parti ne devient majoritaire. En fait, en faisant ça, De Gaulle contribue à augmenter l'instabilité politique de la 4ème République. En 1953, voyant que son poids politique ne suffit pas à empêcher la création de la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier, qui est en fait l'ancêtre de la CE, la Communauté européenne, et il ne parvient pas non plus à avoir un poids sur la question indo-chinoise, il décide finalement de se retirer de la présidence du RPF. Il commence alors une retraite à Colombey-les-Deux-Églises, où il rédige ses mémoires de guerre dont on a lu un extrait tout à l'heure, et il entend tout simplement son heure.
Alors, affaibli par les raisons dites plus haut et l'enlisement de la France en Indochine, tu l'as évoqué, De Gaulle va appeler à un référendum pour une nouvelle constitution et donc, de fait, à une nouvelle république. Alors, pour commencer, c'est, avant vraiment de rentrer plus dans les détails, hein, c'est René Coty, en mai 1958, qui rappelle De Gaulle juste après le putsch des généraux à Alger.
Oui, mais il a su attendre le bon moment, De Gaulle. En fait, à partir de 1957, il y a beaucoup de partisans de l'Algérie française qui appellent à son retour. Ils estiment que la 4ème République et les nombreux gouvernements qui se succèdent mènent une politique trop hésitante, trop timorée, et donc lui attend, il laisse planer le doute sur ses options politiques, ce qui ne fait qu'accentuer en fait, les appels du pied que lui font tous ses partisans. Le putsch d'Alger, qui a lieu le 13 mai 1958, est un véritable tournant, puisque cette fois, le général de Gaulle est officiellement appelé pour revenir aux affaires par ces derniers. Et le 15 mai, il se déclare, je cite, « prêt à assumer les pouvoirs de la République ». À Paris, la situation est extrêmement tendue parce que la 4ème République se sait menacée par la subversion militaire. Tous, même les socialistes menés par Guy Mollet à l'époque, comprennent que le seul moyen d'éviter la dictature militaire, c'est de rappeler le général de Gaulle. Le 29 mai, alors que les généraux d'Alger sont tout juste sur le point de lancer le plan Résurrection contre la métropole, René Coty, qui est alors le président de la République française, demande au plus illustre des Français, hein, je cite encore René Coty, de prendre la tête du gouvernement. Et le 1er juin, l'Assemblée donne son accord. Le 2 juin, De Gaulle obtient les pouvoirs spéciaux en Algérie, les pleins pouvoirs en métropole pour 6 mois et le droit d'opérer une révision constitutionnelle alors même que rien de tout cela n'était prévu ni même possible selon la constitution de 1946.
C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple.
Raphaël, ne le cachons pas d'ailleurs, hein. De Gaulle, en septembre 58, dit dans son discours fameux « Moi-même et le gouvernement », le général affirme que c'est lui et un peu pour lui qu'il veut une 5ème République. Précisons une chose, De Gaulle en plus déteste les partis politiques.
Oui, il s'en méfie grandement et on a expliqué pourquoi auparavant. Il en résulte une grande méfiance qui va dicter les grandes lignes de la nouvelle constitution qu'il fait rédiger par ses plus fidèles partisans, dont Michel Debré, qui devient d'ailleurs son premier ministre en 1959. Les experts qu'il nomme pour rédiger la nouvelle constitution ont une base idéale pour travailler, c'est le discours de Bayeux de 1946. Et la constitution qui est soumise à l'approbation des Français en septembre 1958 n'est que l'application de toutes les idées prononcées lors de ce discours.
Et fin septembre 58, une large majorité de Français au référendum vote oui à la nouvelle constitution. La 5ème République naît officiellement le 4 octobre de la même année, avec De Gaulle en premier président. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, cette nouvelle constitution ?
Alors, cette nouvelle constitution est différente des précédentes parce que celle-ci donne la primauté absolue au chef de l'État. Il n'est pas élu par le Parlement, mais par un collège électoral qui est bien plus vaste, environ 80 000 personnes. Les pouvoirs de l'Assemblée sont limités. Cependant, la 5ème République reste un régime parlementaire et non présidentiel. Le gouvernement et le Premier ministre sont nommés par le président, mais ce gouvernement est placé sous l'autorité de l'Assemblée. C'est par la suite qu'il va faire un usage très large de ses pouvoirs présidentiels. Il se constitue un domaine réservé couvrant toutes les grandes options de la politique nationale. Le gouvernement ne prend plus les grandes décisions désormais, alors même que l'article 20 de la Constitution prévoyait que les ministres devaient, je cite, « déterminer et conduire la politique de la nation ». Et en fait, c'est de Gaulle lui-même qui prend les décisions, entouré de ses collaborateurs personnels de l'Élysée. De la même manière, il a énormément recours au référendum, bien plus que ce que le prévoyait la Constitution. Et ainsi, malgré le court-circuitage du gouvernement, voire même parfois du Parlement, il parvient à légitimer son action politique.
Ah, il était fan de référendum, hein, de Gaulle. Parce qu'il en refait un en 1962 pour modifier le mode d'élection du président de la République et arriver au suffrage universel direct. Encore une fois, c'est pour lui qu'il le fait.
Et quelque part, oui, cette modification constitutionnelle renforce sa position, puisque, comme le démontrait d'ailleurs la multiplication du nombre des référendums, il a établi un dialogue très direct avec la population française, encore une fois pour se légitimer à la tête de l'État. En plus, il profite de l'occasion en 1962 pour dissoudre l'Assemblée qui s'opposait à ce projet et à la politique de son gouvernement alors menée par le Premier ministre Georges Pompidou. Il enregistre donc deux grandes victoires en fin 1962. Non seulement il l'emporte lors du référendum d'octobre avec 62,25% de oui, mais en plus son parti gagne des élections législatives en novembre, ce qui lui donne une majorité au Parlement.
Malheureusement pour lui, en 1968, la France étudiante et ouvrière se réveille. Les jours au pouvoir de Gaulle sont comptés. Pourtant, il réalise un raz-de-marée aux élections législatives de fin mai 68. La colère gronde et De Gaulle propose un référendum, encore un, en 1969, notamment sur une réforme du Sénat et la régionalisation dans le but de parachever une politique de décentralisation entamée depuis le milieu des années 60. Enfin, c'est surtout pour lui, c'est le oui l'emporte, l'approbation de la France à sa politique.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM.
Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous solennellement sur ce sujet capital, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée de ceux qui me soutiennent et qui de toute façon détiennent l'avenir de la patrie. Ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions.
Raphaël, malheureusement pour lui, le non l'emporte à ce référendum. Et au revoir De Gaulle. Est-ce que ça va changer quelque chose dans le paysage politique français ?
Pas dans un premier temps, en tout cas pas sur tous les points. Son ancien Premier ministre Georges Pompidou est élu président et rompt avec la politique très méfiante du général vis-à-vis de la CEE. Il met un terme à la politique dite de la chaise vide et facilite l'adhésion de l'Irlande et du Royaume-Uni, qui adhèrent donc à la communauté en 1973. En revanche, sur la question de la position de la France sur la scène internationale, il reste sur la même ligne que De Gaulle. Une sorte d'entre-deux qui a permis à la France de se poser comme un intermédiaire entre États-Unis et URSS. Ainsi, le premier chef d'État d'Occident à recevoir un dirigeant soviétique, c'est De Gaulle, qui reçoit Brejnev en 1971. Dans le domaine de la politique intérieure, il poursuit aussi des investissements dans les secteurs industriels innovants et confirme la volonté de moderniser la France, tant économiquement que socialement, de sorte à ne pas reconnaître un nouvel épisode à la mai 68.
Alors, les présidents vont succéder, hein, Pompidou, puis Giscard, jusqu'à ce jour de mai 81, où un certain François Mitterrand est élu, et petit à petit, le bipartisme va se mettre en place, tout ce que De Gaulle n'aimait pas en fait.
Certes non, il n'aurait pas du tout aimé et il aurait détesté les épisodes de cohabitation qu'a connu la 5ème République. Mitterrand-Chirac entre 86 et 88, Mitterrand-Balladur entre 1993 et 1995, Chirac-Jospin entre 1997 et 2002. Cela dit, on a connu une sorte de retour en arrière, de réforme gaulliste quelque part, avec le référendum du quinquennat organisé par Chirac en 2000. En coordonnant les calendriers des élections présidentielles et législatives, on assure une majorité de façon systématique au président qui vient d'être élu, et ce dernier obtient ainsi les coups des franges pour mettre en place sa politique pendant 5 ans. Résultat, depuis 2002, les présidents en exercice n'ont jamais connu de cohabitation. Étant donné les grandes prérogatives qui sont données au président de la République, la France apparaît de plus en plus comme un régime républicain, puisque le Parlement est surtout là pour valider la ligne politique dessinée par le président et les décisions prises par son gouvernement. En cela, la France a un régime politique assez original que l'on ne retrouve pas chez nos voisins. En revanche, nous connaissons une alternance politique permanente depuis 2017, très importante, qui vient systématiquement mettre un terme aux lignes politiques données. C'est sans doute pour ces raisons que depuis ces années-là, les débats en faveur d'une nouvelle constitution, la création d'une 6ème République, progressent énormément et ressortent régulièrement lors des élections présidentielles. Ces partisans souhaitent revenir à un régime plus parlementaire, améliorant la représentativité de la population. Mais nous avons vu en France les dérives que ça a pu susciter sous la 4ème République, notamment pendant les périodes de crise. On voit d'ailleurs ce qui se passe actuellement en Italie, qui a beaucoup de mal à constituer des gouvernements pérennes. Et dans la crise actuelle que traverse le pays, on vient de faire appel, là aussi, à un homme providentiel, Mario Draghi, pour prendre les décisions rapides et efficaces, un peu comme finalement nous l'avions fait en 1958 avec le général de Gaulle.
On n'est pas des flics ordinaires, on ne colle pas des contraventions.
C'était Clin d'œil à l'histoire. Présenté par Raphaël Hélène sur Radio Bartas.
On ne catéchise pas les blousons. La police, on est les perlous. À côté de nous, même Scotland Yard a l'air d'un ramassis de car la PJ fait franchement tartouze. Gare au bar. On est des gourmands de la bagarre, on a la manchette en nickel. Faut dire qu'on marche au steak tartare et qu'on ne carbure pas au vitel. Pour la gauche, j'ai une préférence, je m'en sers dans les grandes occasions.
Ouais.
Dis surtout pas ça au patron, c'est un type qui est plutôt vieille France. Gare au bar, au barbouze. On connaît les langues étrangères.
Hans, zwei, drei.
On n'est pas obtus. À Munich,
à New York, au Caire.
Comme ça, on passe inaperçu. Remarquez pour qu'on s'en souvienne. Qu'on mélange pas les baratins. Quand on nous masse tous les matins, on assis sur la boîte crânienne. Gare au bar, au barbouze. On escorte les hauts personnages, principalement les présidents. On a un œil sur les parages. Et de l'autre, on ne quitte pas le client. On colle à lui comme des ventouses. On met nos pieds dans tous ses pas. C'est tout juste, il ne nous retrouve pas sous le jupon de son épouse. Gare au bar, au barbouze. Ce qui nous manque, c'est les demoiselles. Sur ce plan-là, on est privé. Pas de chance, le patron nous appelle. Chaque fois qu'on pourrait consommer. Alors, après 50 services, passer dans de telles conditions. Souvent dans nos goûts, nos façons, des transformations s'accomplissent. Gare au bar, au barbouze.